Diane a publié un très beau roman donc, qui est paru chez Stock en langue française et qui est réédité récemment au livre de poche, qui s'appelle Beyrouth la nuit. Et Beyrouth la nuit, c'est un tout autre univers, un tout autre aspect de la vie libanaise. Alors, à Beyrouth, qui est une jeunesse extrêmement moderne, qui aime la musique rock, punk, qui aime bien les cafés, qui s'adonne aux soirées, etc. Donc un univers qui est extrêmement familier au fond pour un Européen, quoi. Voilà.
Donc, oui, en apparence.
En apparence, voilà. Méfions-nous des réductions hâtives. Voilà, donc je vous laisse la parole.
D'accord. Diane. Comme j'ai toujours du mal à parler en public, donc si jamais mon ton de voix est un peu monotone ou monocorde, voire même dépressif, dites-le moi, parce que vraiment je ferai un effort de d'hausser mon ton de voix. Donc, alors je vais lire lentement, bon, pas trop lentement, mais je vais voilà, lire. Quand j'ai commencé à écrire Beyrouth la nuit, la question du lieu s'est posée. Beyrouth, la ville, la capitale. Il était hors de question que je plante mes histoires dans une ville, certes appelée Beyrouth, mais rendue abstraite et générique, avec des rues et des immeubles. Or, il m'est très vite paru compliqué, voire impossible, de décrire Beyrouth dans sa totalité. Beyrouth est composée d'un agglomérat de micro-univers. Elle est trop contrastée, trop fragmentée, que ce soit d'un point de vue topographique, architectural, sensuel, que culturel, linguistique et historique. Chaque quartier, chaque voisinage a sa propre atmosphère, sa propre ambiance, ses couleurs, odeurs, saveurs. Aujourd'hui encore, je suis surprise par la rapidité à laquelle je suis projetée dans un univers complètement différent, juste en passant d'une rue à l'autre. L'aménagement des voies, le style de l'habitat, les vitrines des boutiques, l'écriture des enseignes lumineuses, l'accent des gens, leur façon de s'habiller, de se coiffer, etc. Il me fallait donc choisir un quartier et j'ai choisi Achrafieh, le quartier chrétien de Beyrouth situé sur une colline à l'est de la ville. Quand la guerre a commencé en 1975, Beyrouth a été divisée en deux, l'est chrétien, l'ouest musulman. On appelait la frontière entre les deux la ligne verte, car comme elle était semée de francs-tireurs visant tout ce qui bougeait, personne ne s'y approchait et seule la végétation poussait. Pourquoi Achrafieh ? D'abord parce que c'est mon quartier, celui dans lequel j'ai vécu 10 ans jusqu'à il y a 1 an et demi. Donc en fait, ça fait 1 an et demi que je suis à Paris, mais les 10 années d'avant, j'étais à Beyrouth. Voilà. Et donc, c'est le quartier que je connais le mieux. C'est aussi un quartier que j'aime, car pour moi, il représente le Liban. Bon, là, je dis bien pour moi, car Achrafieh, pour un autre Libanais, ne sera pas du tout représentatif du Liban. Beyrouth étant justement constitué d'une myriade de différentes réalités sociales, et donc ça, c'est aussi un point très important. Mais pour moi, c'est Achrafieh qui, pour moi, par rapport à mon vécu, mon ressenti, qui représente le plus d'aspects familiers avec l'image globale que je formais du Liban. On y retrouve une forte imprégnation française héritée du mandat, que ce soit dans le mode de vie occidentalisé que la langue, la culture, les enseignes des boutiques, ou le nom des restaurants, des pharmacies, ou de... Enfin, je pourrais vous donner plein d'exemples de noms un peu qu'on retrouve, je ne sais pas moi, par exemple, le club des enfants de Neptune, ou une école qui s'appelle les Sœurs de Besançon. Bon, il y a plein de petites choses comme ça, là, ça ne me vient pas trop, mais donc on sent comme ça le côté français, mais détourné. Il y a un petit côté décalé, probablement qui vient du local. Comme Achrefi est situé au sommet d'une colline, on peut à certains endroits avoir une vue sur tout Beyrouth, la mer et les montagnes, et ça aussi c'est important pour mon texte. Et puis il y a aussi l'effet village avec ses ruelles enchevêtrées, sa végétation qui me plaît. J'ai vraiment parfois l'impression de circuler dans une grande maison ouverte. Il y a ce côté un peu grande maison familiale où... Bon, ça va sembler un peu, peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais bon, par exemple, moi, il m'est arrivé une fois le soir, tard, la nuit, d'avoir oublié de ne plus avoir de produits pour les lentilles. Et donc, comme j'étais déjà en pyjama, il y a une pharmacie qui est juste en face de moi, je suis descendue et j'ai été en pyjama et en pantoufle à la pharmacie, et ça n'a choqué absolument personne. Et donc, c'est ce côté où on se sent à l'aise, qui aussi me plaît beaucoup pour l'écriture d'une fiction. Dans Nucleus, c'était mon premier récit graphique qui a été publié au Liban en 2009. C'est un long récit qui est entrecoupé de séquences visuelles que j'ai faites à base de photos et d'illustrations. Donc, Dans Nucleus, j'ai beaucoup joué de cette proximité en insistant sur le fait que mes personnages existent pour de vrai, qu'ils vivent bel et bien en ville. En effet, tous mes personnages, c'était un peu mon entourage, mes amis, et que justement, si le lecteur tombait sur l'un d'entre eux, il pouvait parfaitement les interpeller, leur poser des questions ou même aller prendre un café avec eux. Et j'avais averti mes personnages que si ça arrivait, ils devaient jouer le jeu, et effectivement, ils ont joué le jeu aussi. Donc Achrefi est choisi. Je me suis rendu compte que c'est toujours aussi difficile d'en faire une description. Il faudrait par exemple 3 pages pour esquisser cet immeuble style années 60 à la façade rose décolorée et griffée de balles, mais dont les terrasses ont été flanquées de nouvelles baies vitrées et la terrasse sur le toit d'une extension moderne en verre et en aluminium. Or, c'était vital pour moi de rendre compte de l'ambiance et de l'atmosphère de Beyrouth à travers Achrefi, et sans me perdre dans des descriptions à n'en plus finir. Et comme j'avais beau réduire mon champ de vision, mon regard avait toujours du mal à se poser calmement sur une ligne d'horizon, sans être stimulé par une multitude de détails visuels, de couleurs et de textures différentes. J'ai donc décidé d'illustrer cet aspect organique et chaotique de la ville par un foisonnement de personnages. Il y a donc dans Beyrouth la nuit 6 personnages principaux et 4 secondaires. Et une action séquencée. Donc toute l'action se passe en une nuit, au fil de laquelle on saute d'un personnage à l'autre jusqu'à l'aube. J'ai aussi profité de la topographie d'Achrefi pour donner du relief aux divers déplacements et trajectoires des personnages qui montent et descendent la colline, la contournent, vont jusqu'au port ou au centre-ville, puis reviennent et remontent. Il est aussi important pour moi de préciser que le sujet de Beyrouth la nuit, ou même de Nucleus, n'est pas la guerre directement. Bon, on en perçoit des échos en toile de fond, un barrage ici et là, une alerte à la bombe. On sent que la ville est bien posée sur une poudrière, mais c'est tout. J'insiste sur ce point qu'en général, et ce jusqu'à présent, même pour des jeunes auteurs ou artistes, réalisateurs libanais qui peut-être n'ont pas vécu la guerre, ça reste quand même un thème assez récurrent jusqu'à aujourd'hui dans les œuvres au Liban. En ce qui me concerne, comme je suis née à l'étranger, que j'ai grandi à l'étranger et que j'étais encore petite quand la guerre s'est terminée, j'éprouve une grande distance vis-à-vis d'elle. Je n'y connais rien. Je ne m'y suis jamais sérieusement penchée dessus et il n'y a pas eu de victimes dans mon cercle rapproché. Au pire, je l'ai vécu à travers l'inquiétude de ma mère pour ses parents restés au Liban, à travers son angoisse quand elle passait des heures à essayer d'appeler la centrale de Beyrouth pour attraper la ligne et obtenir une communication téléphonique avec son frère, ou à travers ce que je pouvais capter des journaux télévisés. Au mieux, je l'ai approché de plus près pendant les grandes vacances, une fois par an, quand chaque été nous allions passer un mois au Liban voir la famille. Et encore, c'était vers la fin de la guerre. Les vrais sujets de mon livre sont donc mes personnages, qui, comme moi, n'ont pas le souci de la guerre. Au contraire, ils surfent sur les tensions, chacun en proie à ses propres préoccupations. Je dirais même plus qu'on ressent l'effervescence de la Coupe du Monde dans Beyrouth la nuit. Parce que ça se passe justement pendant la Coupe du Monde en 2010, cette fameuse nuit du 23 juin, il me semble. C'était lors d'un match entre l'Allemagne et le Ghana. Et donc j'aimais bien l'idée de juxtaposer la légèreté d'un événement fictif, d'un événement festif et collectif, à la lourdeur des tensions qu'on ressent toujours de toute façon à Beyrouth, des tensions politiques ou politiques, géopolitiques. Donc mes personnages ont tous plus ou moins 30 ans et ils errent sans but dans la ville. Pourquoi errent-ils ? Parce qu'ils se cherchent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur place à 30 ans. Mais pourquoi ? Et là, on en vient au cœur du sujet. Parce que si le sujet de mes livres n'est pas la guerre, mes personnages, eux, en sont le produit même. Ce sont les bébés de la guerre et ils sont le produit d'une période historique et d'un concours de circonstances que je vais essayer de développer en 4 points. D'abord, les séquelles. Ils sont dits de la génération des bébés de la guerre parce qu'ils sont nés pendant la guerre. Qu'ils l'aient vécu de près, c'est-à-dire au Liban ou de loin à l'étranger, ils en portent des séquelles non pas spécialement directes, mais plutôt transmises par leurs parents. En effet, au début de la guerre, leurs parents étaient probablement de jeunes adultes de 20 ans qui soit ont quitté le Liban, soit sont restés, mais quoi qu'ils en soient, à plus ou moins 20 ans, leur jeunesse leur a été amputée. Par contre, réaction, une fois par an, ils ont gâté et surprotégé leurs enfants. Et ces enfants couvés de façon névrotique ont donné lieu à ce que je nomme les bébés de la guerre, qui sont aujourd'hui des trentenaires, plus ou moins détachés, déresponsabilisés, vivant dans une bulle. Bon, il est évident là que je généralise et que cette description ne s'applique pas à tous les trentenaires du Liban, heureusement. Toutefois, surtout chez ceux qui ont un tempérament artistique, on a tendance à retrouver les mêmes symptômes, c'est-à-dire des jeunes gens peu autonomes qui vivent toujours chez leurs parents, en dépendance financière, familiale et sociale. Ils ne savent pas encore vraiment exactement quoi faire de leur vie. Ils ont du mal à grandir, surtout ça, ils ont du mal à grandir, à affronter la réalité, à s'engager, rentrer en contact avec le concret des choses et feraient de tout pour éviter toute forme de souffrance psychique ou physique. Ils sont constamment dans l'autoprotection. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un de mes personnages qui s'appelle Kamal. Kamal est un fils de bonne famille qui incarne le modèle phallique par excellence. Avec les femmes, il se contente des plaisirs fugaces que son organe génital peut en tirer, sans plus. Il se définit par rapport à son sexe, et ça ne va pas plus loin car il ne se donne pas. Par peur de souffrir, d'avoir mal, ou tout simplement par légèreté, futilité, pour préserver son insouciance et sa tranquillité d'esprit, car c'est plus agréable comme ça. Et plutôt que de se perdre ou risquer de perdre quoi que ce soit en cours de route pour se retrouver accablé, il préfère rester à la surface des choses et se contenter du calme plat, maître de ses émotions, comme les aventures d'une nuit qu'il accumule parce que ça l'arrange, c'est plus commode, plus facile, et surtout parce qu'il peut se le permettre, et ça sans le moindre effort, vu le nombre de filles qui tombent à ses pieds. Un jour, il a une aventure d'une nuit avec une fille, Nara. Quelques mois plus tard, il apprend que cette fille est morte dans le crash de l'avion de la Ethiopian Airlines qui s'est effectivement produit au Liban en janvier 2010. Cette fille, Nara, ne lui dit absolument rien du tout. Il doit même faire de gros efforts de mémoire pour se rappeler du cours de leur aventure. D'ailleurs, il apprend sa mort tout à fait par hasard en lisant le journal bien des mois plus tard, parce que la municipalité du village dont elle est originaire organise une petite exposition commémorative parce que c'était une sculptrice. Donc vraiment, il voit pas du tout de qui il s'agit, puis comme il se dit qu'il doit y avoir très peu de filles qui s'appellent Nara et qui sont sculptrices, il commence à se rappeler de leur rencontre. Et là, c'est plutôt par curiosité, je dirais un peu morbide, qu'il essaye de se souvenir de sa rencontre avec elle, voir il n'avait pas décelé à ce moment-là un petit signe néfaste ou un petit signe avant-coureur de sa mort. Et donc, à force d'essayer de se rappeler de toute leur aventure, bon, qui n'a duré que quelques heures, mais donc là, quand tout d'un coup il se souvient de ce qui s'est réellement passé entre eux, contre toute attente, il se sent mal à un point où il va s'acharner à trouver une solution pour soulager sa conscience. Bon, hélas, il n'y parvient pas et comble de l'horreur, la douleur psychique de la culpabilité devient physique. Mais ce n'est pas tout. Donc là, je reviens au bébé de la guerre. Ça, c'était juste pour donner un exemple de ce côté où vraiment autoprotection, essayer de tout faire pour ne pas... pour éviter des souffrances psychiques et physiques. Donc ce n'est pas tout en matière de stigmates. Comme toutes les guerres, celle du Liban a influé sur le rapport des gens au lieu, au temps et au réel, créant de grandes ambivalences, comme par exemple vivre dans le provisoire définitif, cohabiter avec la mort, les abris mutent en lieux gorgés d'espoir, mais où l'on s'y sent plus en danger qu'à l'extérieur. Comment rester quand la proximité devient périlleuse et comment fuir quand l'éloignement est cruel? Ces altérations de la perception créent une distance vis-à-vis du monde. Ainsi, non seulement les bébés de la guerre souffrent d'une distance avec la réalité de la vie, mais aussi avec le monde qui les entoure. Je suis comme ça. Les personnages de Beyrouth la nuit aussi, et chacun à sa façon, ceux de Nucleus l'étaient encore plus. Ici, je prends l'exemple d'Olivia, un autre personnage de Beyrouth la nuit. Olivia est une jeune actrice qui vit sa vie comme si elle était dans un film. Elle écrase un type sur la route, elle fait un accident de voiture, et quand elle se retrouve au poste de police en cellule ou en salle d'interrogatoire, elle vit les scènes successives exactement comme si elle tenait le premier rôle, tour à tour ghoul dans un film d'horreur, super-héros ou prima donna. À aucun moment, la question de savoir si le type qu'elle a écrasé est mort ou vivant ne l'effleure. Elle est en complet, même pas en déni, elle est vraiment dans une réalité parallèle. Ensuite, l'histoire. Donc ça, c'était les séquelles. Maintenant, j'en viens à l'histoire. En dehors d'être esclaves de leur manque de responsabilité et de rigueur, cette génération des bébés de la guerre souffre aussi d'un manque de cadre et de base historique. Ils n'y sont pour rien. D'une part, l'histoire du Liban en tant qu'État a vu le jour en 1943, je pense. Si je me trompe, dites-moi. Or, la guerre commence en 1975. Autant dire qu'à peine né, le Liban se retrouve pris dans la tourmente. Il n'a pas eu le temps de se constituer solidement et le peu de bases qui avaient été établies ont très vite été balayées par la guerre. D'autre part, la guerre du Liban n'a toujours pas été écrite de façon officielle, dans le sens où le Liban, en tant que nation, n'est toujours pas d'accord sur ce qui constitue une grande partie de son histoire. Donc, il n'existe toujours pas de repère historique grâce auquel s'orienter. Enfin, le traité d'amnistie qui met fin à la guerre en 91, là aussi je ne suis pas très sûre des dates, a donné lieu à une amnésie généralisée. On oublie la guerre et on en reste là, sur un conflit non résolu, laissant la nation dans un état de conscience qui se situe à la limite de la vie et de la mort, du réel et de la fiction, du grave et du jeu. Et comme si ce n'était pas suffisant, à ce flou le plus obscur vient s'ajouter l'instabilité et l'insécurité du contexte géopolitique actuel. Comment donc se construire et grandir quand les fondations sur lesquelles on devrait prendre appui sont trop jeunes, une indépendance en 1943, trop fragilisées, plus de 15 ans de guerre, trop floues, un conflit non résolu, et trop instables à cause du contexte géopolitique? Donc comment évoluer sans passé ni futur, vers où se diriger? Résultat, on flotte sur place, on erre, on dérive au gré de l'inspiration mais sans but. Je prends un autre personnage de Beyrouth la nuit. Anis est un architecte. Il est donc très familier avec les notions de cadre, de base, d'appui, de repère et de structure. Ce soir-là, le soir de l'action où tout commence, il ressent une vive envie de sortir, mais ne trouve personne avec qui aller, avec qui passer une soirée. Dans un moment de vague contemplation par la fenêtre, il repère au loin dans la ville un point vert lumineux qu'il n'avait jamais vu. Donc, désespéré de ne pas trop savoir quoi faire, il prend sa moto et décide d'aller voir de quoi il s'agit. Et là, il se retrouve propulsé dans un univers complètement étranger à lui. Le troisième point, qui ajoute toujours un peu plus d'instabilité à cette génération, c'est l'identité, la question de l'identité. Donc, pour compliquer encore un peu les choses, il ne faut pas oublier une donnée fondamentale, les identités multiples dont on a pas mal parlé, j'imagine, depuis le début de ce banquet. Donc, rapidement, parce que c'est un peu cliché, mais juste pour ne pas que je sois perturbée en coupant. Donc, je rappelle juste que, donc, situé à la jonction des trois continents européens, africains et asiatiques, le Liban est formé d'une mosaïque d'ethnies, de communautés religieuses, de cultures et de mentalités diverses et variées. Donc, 19 confessions religieuses, 3 langues principales, l'arabe, le français, l'anglais. Donc, hier aussi, on mentionnait l'arménien. On paye avec 2 monnaies courantes différentes, le dollar et la livre libanaise. Et qu'est-ce qu'être libanais aujourd'hui et comment se constituer une identité ? La guerre a déterré et souligné au feutre noir les différences et les ambivalences identitaires et la question sans cesse posée pour les Libanais, pour d'autres peut-être, mais en tout cas surtout pour les Libanais, demeure sans réponse. Seul, en tout cas pour moi, reste le drapeau et l'hymne national. Et là, le quatrième argument est le cosmopolitisme. Donc, comme hier le disait Jabour Douahi, donc on ne sait pas à quel point au Liban, cette notion de cosmopolitisme est un cosmopolitisme voulu, recherché ou par plaisir, ou si c'est un cosmopolitisme forcé. En tout cas, les dernières générations qui poussaient à partir à cause des conflits et des instabilités ont souvent ou grandi, ou étudié, ou travaillé à l'étranger. Il leur a donc fallu à un moment se déraciner pour se réenraciner ailleurs, mais jamais vraiment complètement. Donc pas assez enraciné pour ne pas se poser de questions, mais pas assez nomades pour se considérer citoyens du monde. Les jeunes Libanais se sentent souvent étrangers au Liban parce que sans cesse un pied ailleurs, étrangers à l'étranger malgré leur exceptionnelle capacité d'adaptation, jamais nulle part à leur place et partout chez eux, hybrides comme un croissant au za'atar. Le za'atar, c'est du thym. Donc au Liban, on mange des croissants au za'atar. Partagés entre les valeurs traditionnelles de l'Orient et le culte de la liberté individuelle de l'Occident. Ils sont donc à cheval entre deux modes de vie. D'un point de vue local, ils ont hérité les valeurs traditionnelles familiales, construites sur le schéma classique, à savoir, de façon caricaturale toujours, reprendre l'affaire familiale ou suivre le métier du père, se marier et faire des enfants, valeurs souvent conservatrices et conventionnelles, alourdies du poids de la société. À l'étranger, par contre, ils se sont imprégnés des notions d'individualisme, de culte de soi, d'épanouissement personnel et de bien-être, comme par exemple préférer se consacrer à une vocation pour son propre plaisir plutôt que de s'épuiser dans une profession pour gagner sa vie, préférer les rencontres amoureuses aux relations d'intérêt, etc. Mais ils se retrouvent assez vite pris dans un étau car il est très difficile, voire impossible, j'aurais pas dû dire voire impossible, mais il est très difficile de s'affranchir complètement des liens, des devoirs et des obligations entre la famille et les autres avec un tel bagage de valeurs et de principes traditionnels. Ils ne sont donc pas assez libres à cause de leur sens du sacrifice et pas assez esclaves à cause de leur individualité. Ici, je donnerai l'exemple d'un autre personnage de Beyrouth la nuit, Zalfa, une brillante avocate, profession qu'elle a héritée de son père et qu'elle honore avec talent. Pendant ses études universitaires, Zalfa est tombée amoureuse d'un jeune homme dont le statut social ne convenait pas à sa famille. Elle a rompu. Depuis, sur 10 ans, elle a enchaîné les relations avec de bons partis, comme il se doit au Liban, mais en vain. Et aujourd'hui, Affranchie des liens familiaux, elle décide de faire seule un enfant au Liban, ce qui est assez, c'est un grand exploit. Donc, pour résumer, les bébés de la guerre ont du mal à grandir. Ils souffrent d'un manque d'ancrage historique et identitaire, et de par leur cosmopolitisme, forcé ou pas, voulu, recherché, peu importe, ils se retrouvent le cul entre deux chaises. À ce clivage interne, ajoutons aussi le monde extérieur, vaste et bourré de choix et de possibilités où règne le chaos. Ce qu'ils ont en commun, les bébés de la guerre, c'est aussi ils ont beaucoup en commun avec la génération Y dans le monde. Donc comment réagir face à autant d'instabilité, que ce soit au niveau interne qu'externe? Si les schémas classiques ne marchent pas et ne sont pas source de satisfaction, aucune solution alternative ne leur a encore été présentée. Pas de modèle à suivre, en manque de structure, déjà privés de grandes bases constitutives, certains jeunes, face à cette confusion abyssale et peu rassurante, prennent automatiquement le parti de se raccrocher au seul point d'ancrage disponible, visible, à savoir les valeurs, les principes traditionnels. Ainsi, derrière le cliché des jeunes Libanais super sympas, super accueillants, qui savent faire la fête et s'éclater tous les soirs, se cachent des jeunes gens un peu déprimés qui préfèrent se fuir en sortant. Les autres, comme mes personnages par exemple, qui ne savent pas quoi choisir parce que plus rien ne les oblige vraiment, on ne sait pas parce qu'on n'est plus obligé, enfin ce n'est plus l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, ils prennent le risque de continuer à chercher, chercher un modèle plus épanouissant, plus personnel, chercher le juste équilibre, leur place, mais sans forcément y parvenir. Et en attendant, dans une insouciance mêlée d'angoisse, ils se raccrochent à des choses qui sont de l'ordre des plaisirs immédiats et d'un mode de vie erratique. Mais en attendant aussi, il y a le temps qui lui passe, cruel et irrécupérable. Devenus trentenaires, ces jeunes gens sentent qu'ils approchent le point de non-retour, ce point après lequel les jeux seront faits. Un infime dérapage peut coûter gros à plus de 30 ans, une passion peut se révéler fatale et le passé devient lourd de remords et de regrets. C'est ce qu'on ressent dans mon livre. On sent bien que c'est maintenant ou jamais, que ce soit au niveau professionnel que personnel, que familial. On oscille entre ce point de non-retour, on en ressent la pression, on est dans l'urgence, on peut même renifler un avant-goût de ce qu'on sera à 50 ans. Le royaume du monde des possibles est à deux doigts de leur claquer la porte au nez. À 30 ans, c'est maintenant ou jamais. C'est pour ça que Marilou, un autre personnage de Beyrouth la nuit, décide qu'il est temps, pour aller de l'avant, de se débarrasser de tous les souvenirs liés à ses amours passés. Elle s'enferme dans une chambre d'hôtel avec Yves, son meilleur ami volage et désœuvré, et procède à la liquidation de ses souvenirs. On pourrait se dire, enfin, voilà un personnage qui fait quelque chose avec un objectif précis. Oui, parce que je pense que c'est la seule. Oui, sauf que c'est plus compliqué que ça. À peine a-t-elle réduit sa mallette de souvenirs qu'elle en commence une autre. Elle retombe en arrière, elle tourne en rond, comme Osman, un autre personnage, qui est fou amoureux de Sévine. Il l'attend et la cherche dans sa chambre. Et quand enfin il se décide à faire quelque chose, c'est-à-dire à sortir de chez lui, rien non plus d'extraordinaire ou de grandiose, il se fait écraser par une voiture. Quant à Anis, l'architecte dont on a déjà parlé, il sort de cet univers étrange qu'il a été lui-même découvrir pour se rendre compte que ce n'était qu'un rêve rêvé sur place, chez lui. Ce n'est pas par pessimisme si tous mes personnages restent bloqués dans cet entre-deux, une espèce de bulle en suspension. C'est la façon que j'ai choisie pour illustrer la difficulté à se trouver, à faire des choix, à construire et se construire quand d'une part on vit dans l'instabilité, donc forcément replié sur soi, et d'autre part on a été enrichi par deux cultures complètement différentes. Seul un personnage féminin dont j'ai parlé, Nara, donne l'impression d'avoir tenu quelque chose, une forme d'apaisement avec soi, à un tel point qu'elle réussit à exercer une influence magistrale sur Kamal, mais elle est morte. Il y a aussi Sévine, la danseuse étoile dont Ossement est fou amoureux. Elle est fascinante et indéchiffrable. Elle représente cet idéal insaisissable et irrésistible, habité par toutes les contradictions possibles. Mais on se demande jusqu'à quel point elle pourra tenir. Et là, je pense à l'âge d'or du Liban, qui était une période mythique qui va de son indépendance en 1943 au début de la guerre en 1975. Donc, pour les clichés, on parlait de la Suisse du Moyen-Orient, le Paris ou le Monte Carlo de l'Orient, sorte d'Amérique miniature au cœur du Proche-Orient. Le Liban était une plaque tournante, passerelle entre l'Occident et l'Orient, un passage vers l'Est, la vitrine du monde arabe, un véritable oasis de liberté, le refuge des intellectuels et des opposants au régime totalitaire des pays arabes, une terre d'opportunités jouissant d'un libéralisme politique et d'un mode de vie extravagant, les hôtels luxueux, les restaurants, les boîtes de nuit, casinos, théâtres, salles de cinéma et de concerts, festivals, un point de rencontre et de circulation des personnes, les biens, les idées, les informations, un centre d'espionnage, un paradis fiscal. Tout le monde en profitait, stars, hommes d'affaires, artistes, banquiers, militants, touristes, agents de renseignement. Touché par la grâce, le Liban a su prendre tout ce que l'Occident avait de meilleur à offrir, liberté, ouverture d'esprit, culture, éducation, et tout ce que l'Orient aussi avait de mieux à offrir, l'esprit de famille, le sens des valeurs, la notion de respect, les traditions, la convivialité, l'hospitalité, la chaleur humaine, tout ça dans un tout petit pays à la beauté naturelle éclatante, au climat doux méditerranéen entre mer et montagne. Donc, un peu au regard du monde, le Liban était devenu un modèle vivant sur comment une mosaïque de religions et d'ethnies peut s'épanouir dans une société civile multiculturelle. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et aujourd'hui encore, malgré la guerre, la reconstruction et les 40 ans qui ont passé depuis le début de la guerre, le Liban souffre encore de son identité plurielle, source de mésentente et de conflits internes. Bon, il ne retrouvera probablement plus jamais, enfin, je sais pas, j'espère pas, mais bon, on verra. La grâce, le naturel et la fluidité du fonctionnement qui lui avait valu d'être qualifié de miracle, bon, encore un cliché, mais ça s'est quand même passé. Et aujourd'hui, on le voit plutôt comme un miracle au quotidien, tant est stupéfiante sa capacité de résilience malgré ses fragilités, sa grande instabilité. Donc, pour mon prochain roman que je suis en train de documenter, je me suis intéressée à la période de l'âge d'or et je me suis rendue compte de la complexité des choses sous-jacentes. Je n'en ai aucune mémoire personnelle car je ne l'ai pas vécue, mais j'en conçois une nostalgie tellement j'en ai entendu parler. Donc j'ai la nostalgie de ce que je n'ai même pas connu et j'essaye de m'approprier une période historique qui n'est pas la mienne. Cette période historique qui me séduit, mais qui a probablement été embellie et fantasmée, où justement l'Orient et l'Occident, c'était ce mariage idéal entre Orient et Occident. Qui encore aujourd'hui au Liban actuellement demeure source de conflits et de désaccords à titre national mais aussi individuel. Donc, comment trouver le juste équilibre entre tradition et valeurs familiales sans subir le poids sociétal du conservatisme? Comment rester libre sans sombrer dans l'individualisme farouche? Comment éviter qu'une certaine ouverture d'esprit ne vire au laxisme, que le fatalisme oriental ne se transforme en paresse et négligence? Bon, j'ai commencé à écrire pour tenter de répondre à ces questions. Et comme pour mes personnages, pour moi aussi, essayer de trouver ma place. Et dans cette confusion. Confusion que j'ai ressentie dès mon plus jeune âge. Quand j'étais petite, je me présentais en disant « Je vis à Rome, je vais à l'école française, mais je suis libanaise. » Mais je ne me sentais ni libanaise, ni française, ni italienne. Mon pays, c'était mes parents et ma sœur. En effet, mes parents se sont mariés quand la guerre a commencé et sont partis s'installer à Paris où ma sœur et moi sommes nés. Puis on a déménagé à Rome. Loin de la famille et du pays qui était en guerre, on a formé un pays à nous quatre. C'était notre cocon. Comme mes parents parlaient libanais entre eux, j'ai associé le libanais à la langue du cocon, et aujourd'hui, où que je sois dans le monde, dès que j'entends parler libanais, ça me rassure et me réconforte. Je suis donc née à Paris, j'ai grandi à Rome, mais je suis libanaise. J'ai 3 passeports et je suis familière avec 5 langues, ce qui n'est pas très pratique quand on écrit. Ma langue maternelle est le français, qui n'est pas la langue maternelle de mes parents. Je parle italien couramment, je parle libanais, mais ni je lis ni j'écris l'arabe. J'ai appris l'espagnol à l'école, puis j'ai étudié à l'université en anglais. Le français reste la langue de l'école, du travail, de l'écriture. L'italien me fait plaisir et me détend. L'anglais est ce qui me plaît le plus d'un point de vue linguistique, car je trouve la langue flexible, ludique, épurée de toute préposition et éléments de coordination dont le français est truffé et avec lesquels j'ai du mal. Et d'ailleurs, j'ai commencé à écrire mes premiers textes en anglais. J'ai beaucoup écrit en anglais. Et puis j'ai réalisé que non, ce n'était pas ma langue, alors que j'aurais aimé l'adopter, mais je n'ai pas réussi à l'adopter. Donc pour revenir à la notion de cocon, il n'y a plus de cocon aujourd'hui, puisqu'on a grandi, ma sœur et moi. Ma sœur est mariée, elle a 3 enfants. Et moi, je sais d'avance que même si je crée mon cocon familial, il ne sera pas aussi soudé que celui que mes parents ont formé, justement parce qu'ils étaient loin de chez eux sans l'avoir souhaité. Aujourd'hui, le seul semblant de cocon qui me reste, c'est le Liban de mon enfance. Un Liban qui n'existe plus non plus aujourd'hui, mais que je peux retrouver en pensée et qui parfois ressurgit grâce à un effluve dans la rue, une sonorité ou une atmosphère particulière. Le Liban de mon enfance correspond à ce mois de vacances que l'on passait l'été au Liban. C'était vers la fin de la guerre et c'est le seul moment où j'ai pu y goûter de plus près, même si ça peut vous sembler bizarre que j'emploie le mot goûter comme si... Oui, mais c'était ça. Et donc c'était le bruit des obus, des bombardements, les points de contrôle et les fouilles de voitures, absolument rien de dramatique. L'eau qu'il fallait réchauffer dans de grandes casseroles avant de les verser dans des seaux d'eau pour se doucher, les éclairages au néon ou à la bougie, la centrale téléphonique qu'il fallait appeler durant des heures pour passer un coup de fil... Pour moi, enfant, tout ça, c'était très exotique et excitant. On était à l'ouest de la ville, chez mes grands-parents maternels, alors que par la suite, moi, j'ai vécu à l'est, et là, qui était en fait, c'était plutôt là où mes grands-parents paternels vivaient. Donc j'ai connu les deux, l'ouest et l'est. Et le Liban de mon enfance, c'est plutôt l'ouest. Et l'appartement, donc justement, de mes grands-parents maternels était toujours ouvert à la famille, aux amis, aux voisins. Au moment où la nuit tombait, chacun venait prendre son apéritif, son verre de whisky, fumer des cigarettes, jouer aux cartes, dîner, regarder le journal du soir tant qu'il y avait de l'électricité. L'appartement était rempli de monde, de va-et-vient, de discussions, et jamais je ne me suis sentie plus en sécurité qu'au Liban pendant la guerre. C'est peut-être choquant à entendre, mais j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir vécu ainsi. Ensuite, je me suis installée à Beyrouth pour la première fois à 20 ans, 10 ans après la fin de la guerre civile. Malgré l'élan de la reconstruction, la ville était encore semée de ruines. Par exemple, la coque ovoïde du vieux cinéma, la carcasse déchiquetée de l'Holiday Inn ou de l'Hôtel Saint-Georges, la structure fantomatique de la tour Meur, tout ça sont des emblèmes encore jusqu'à aujourd'hui à Beyrouth. Je ne possède aucun souvenir lié à la fonctionnalité glorieuse et passée de ces lieux pendant l'âge d'or, ni aucun traumatisme dû au massacre qu'ils ont abrité, parce que je ne les ai pas connus opérationnels ni pris dans l'action pure de la guerre. Perçus au début comme des vestiges, ces lieux semi-détruits qui auraient pu être construits, abattus ou même détournés sont encore là, vacants, immuables, tels des sculptures fantômes, bulles géantes ou des cœurs en trompe-l'œil. Avec les années, mon regard s'y est habitué. Aujourd'hui, ils ont fondu dans la toile de chantier des nouvelles constructions. Et ces ruines, aujourd'hui, illustrent pour moi cette période de latence architecturale où le provisoire est devenu définitif. Vidées au fil du temps de leur symbolique, Elle me renvoie au mieux à cet état d'instabilité en mal d'appui et de repère, caractéristique de ma génération. La deuxième source d'étrangeté quand je me suis installée à Beyrouth a été l'arabe. Parfois en conduisant, je devais m'arrêter devant un panneau routier écrit en arabe et je ne savais pas où aller parce que je ne lis pas l'arabe. Et je me demandais comment diable était-il possible que je ne puisse déchiffrer ce qui est écrit, que je ne puisse comprendre ce qui se dit à la radio ou à la télévision dans mon propre pays. Comment donc me sentir réellement chez moi ici ? Et pourtant, je suis autant libanaise que les autres, et c'est là où réside tout mon paradoxe libanais. Au Liban, je ne me sens pas assez locale, politisée, confessionnelle, montagnarde ou villageoise. Par contre, en dehors du Liban, me voilà portée par un élan patriotique. Je me présente en tant que Libanaise et ressens un attachement pour le Liban au-delà de l'inexplicable, quand on sait que ni j'y suis née, ni j'y ai grandi. Voilà plus d'un an et demi que je vis à Paris aujourd'hui, et tout d'un coup, le Liban devient le plus beau pays du monde, avec ses collines de poubelles, son million plus de réfugiés syriens, ses problèmes d'eau et d'électricité, son manque de président et de gouvernement. Avec toutes ses défectuosités, c'est un pays que je trouve adorable, même que j'admire, en me disant que c'est quand même un miracle quotidien que ce pays qui tient encore debout malgré tout. Il pourrait disparaître de la carte du monde, que ça ne changerait pas grand-chose, et pourtant il tient encore. Aussi, depuis ma récente installation à Paris, je me rends compte combien les valeurs familiales, dans le sens nucléaire du terme, sont structurantes au niveau individuel. On n'a peut-être pas de pilier historique et politique au Liban, mais on a la famille, solide et bien implantée, qui joue un rôle fondamental au niveau de la structure mentale d'un enfant et de son développement vers l'âge adulte. Un Libanais pourra toujours compter sur sa famille ou du moins sur un membre de sa famille. C'est vrai que, par exemple, j'ai été assez, pas choquée, mais un peu très surprise et dérangée de voir... Des gens, par exemple, le nombre de clochards à Paris ou des gens qui dorment dans la rue, c'est des choses que je n'ai jamais vues à Beyrouth, par exemple. Donc, pour en revenir à la question d'identité, ou plutôt d'identité multiple, donc nous, comme on l'a assez répété aujourd'hui, non seulement il n'y a pas une identité fixe libanaise au Liban, et c'est peut-être pour ça qu'elle ressort en dehors du Liban, mais personnellement, je ne sais toujours pas où je suis enracinée, pas encore à Paris ni à Beyrouth et plus à Rome. Donc où est mon chez moi ? Et là, on retombe dans les problématiques d'un cosmopolitisme forcé à l'inverse d'un cosmopolitisme voulu. À un moment, il a fallu partir, s'installer ailleurs. Alors bien sûr, tout cosmopolitisme est toujours source d'enrichissement au niveau culturel, politique, civique, personnel, familial et même de renforcement puisqu'il aiguise la faculté d'adaptation et la curiosité. Mais à la différence d'un cosmopolitisme recherché, cosmopolitisme par plaisir, le cosmopolitisme malgré lui reste source d'instabilité. Donc je suis née, je le répète pour la millième fois, pardon, mais donc je suis née à Paris, j'ai grandi à Rome et je suis libanaise. Je n'ai pas assez déménagé pour me sentir complètement nomade et je ne suis pas assez sédentaire pour me sentir vraiment chez moi quelque part. Donc ni au Liban ni en Europe. Au Liban, il me manque jusqu'à présent, enfin au Liban me manque une certaine ouverture d'esprit, une certaine variété culturelle, la croissance, le progrès. Et en Europe, me manque l'esprit de famille, la notion de respect, le sens des valeurs, les traditions, la convivialité, l'hospitalité, la chaleur humaine. Mon vécu m'a tapissé de nombreux récepteurs, tant occidentaux qu'orientaux, et chacun de ces récepteurs demande à être nourri et repu. Je ne sais toujours pas exactement comment je vais faire pour tous les combler parce que, en fait, le souci pour moi n'a jamais été de choisir entre Orient et Occident, mais de trouver un lieu géographique qui réussisse à combler ces deux désirs souvent contradictoires. Et je pense que à son époque de l'âge d'or, le Liban
a réussi, en tout cas à un moment donné ou en surface, je ne sais pas, mais je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'un lieu géographique à un temps donné qui a réussi ce mariage. Mais bon, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres Libanais. Mais moi, en tout cas, actuellement, aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé ce lieu géographique. Mais je pense que c'est probablement en moi que je devrais le cultiver. Et donc, j'aimerais terminer avec... je suis tombée sur un dossier très intéressant dans le magazine Philosophie du mois de mai, tout un dossier sur nomades contre sédentaires, la nouvelle lutte des classes. Donc c'est pris, disons, plus à un niveau économique et sociologique, voire anthropologique, qu'existentiel. Mais j'aurais aimé terminer en vous lisant trois citations qui, à moi, m'ont beaucoup parlé. La première, c'est « La grande inégalité passe aujourd'hui entre ceux qui sont capables d'assumer cette l'instabilité, d'en faire un capital productif, et ceux qui sont enfermés dans des logiques d'assignation, confinés dans des rôles et des places de subalternes. » Ensuite, il y a apprendre à composer avec la division plutôt que de rêver d'une hypothétique harmonie sociale. Et enfin, apprivoiser en nous-mêmes le clivage entre aspiration au mouvement et besoin d'attachement. Voilà.